Nous allons continuer un peu l'étude pour comprendre les nouvelles positions qu'on a en Jésus, les nouveaux statuts que ça nous a donnés. Le fait qu'on accepte Jésus, pécheur comme on était, ne méritant absolument rien. Mais le fait qu'on accepte Jésus, ça nous a ouvert la porte à toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tout est là à notre disposition à cause qu'on est devenu une nouvelle création, une nouvelle créature. Là, il y a un paquet de statuts, de nouvelles positions qu'on reçoit en Jésus. Des choses que c'est déclaré par Dieu, maintenant tu es telle affaire. Puis on a plusieurs à regarder. On en regarde un autre. On a regardé déjà qu'on était une nouvelle créature. Puis à cause de ça, ça nous a permis d'être enfants de Dieu. C'est important. Statut d'enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Les fils et les filles de Dieu, appelés à devenir des hommes et des femmes de Dieu. C'est extraordinaire. Mais un autre statut qu'on regarde aujourd'hui, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, nous sommes, grâce au Christ, devenus le temple de Dieu. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pas banal, c'est pas léger, c'est extrêmement important de comprendre qui nous sommes maintenant en Jésus-Christ dans ce statut-là, parce que c'est quelque chose qui a commencé en nous lorsqu'on s'est converti, mais qui se poursuit tout au long de notre vie. Faut faire excessivement attention à cause de ce nouveau statut-là. Alors, remarquez, tous les statuts, c'est la même chose. Que tu sois un enfant de Dieu, que tu sois une nouvelle créature, c'est aussi important. Mais de comprendre qu'on est devenu le temple de Dieu, c'est Dieu qui le déclare dans sa parole, c'est important de comprendre la portée de ces choses-là. Ce qu'on veut comprendre, surtout pour répondre à certaines questions que les gens peuvent se poser, y a-t-il un moyen de connaître Dieu? On veut-tu le connaître? Oui, on veut le connaître. Y a-t-il un moyen de le connaître? Oui, il y a un moyen de le connaître. Est-il possible de le connaître intimement? C'est beaucoup plus que connaître des choses sur Dieu. On veut connaître Dieu. Tu peux savoir un paquet de choses sur Dieu, des choses que quelqu'un t'a racontées. Là, tu sais des choses sur lui, mais tu ne l'as pas rencontré, tu ne le connais pas réellement. C'est quand tu as une rencontre avec lui. Puis après ça, c'est quand il rentre dans ta vie. Il est rentré dans ton être, puis maintenant, il est avec toi, puis il t'accompagne. Là, par cette intimité-là qui commence, quand tu donnes ta vie au Seigneur, t'apprends à connaître Dieu, si tu as les yeux ouverts, si tu réalises, parce que tu peux passer des longues périodes de ta vie chrétienne, même plus y penser que Dieu est là, autour de toi, et faire plein de choses qui le fait fuir, autrement dit. La Bible parle d'une catégorie de personnes qui auront dans leur vie la grâce, c'est un cadeau, là. On va recevoir la grâce de recevoir en eux le Dieu créateur de toutes choses. La Bible en parle dans l'Ancien Testament qu'il y aurait des gens qui, à un certain moment donné, seraient visités par le Saint-Esprit, par Dieu lui-même, qui viendrait pour entrer en eux puis changer leur vie. Dans Joël, au chapitre 2, verset 28, à partir du verset 28, 28 et 29, Dieu avait fait cette promesse-là. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Wow! Ça, c'est quelque chose comme promesse que Dieu se proposait dès les temps anciens par les prophètes. Il a annoncé d'avance qu'il y aurait un moment donné que des gens pourraient commencer à recevoir le Saint-Esprit de Dieu. qui pourrait être donné comme cela par Dieu à des enfants, des vieillards, des serviteurs, parce que les serviteurs, dans ce temps-là, c'était du monde qui, ou même les enfants, ils les élevaient, mais c'était pas important. Ils mettaient pas l'accent sur leurs enfants comme aujourd'hui. Les femmes, c'était la même affaire. Les femmes, t'as pas considéré, c'était comme un meuble dans la maison. Les hommes se pensaient qu'à eux, c'était à eux autres qui étaient le nombril du monde dans la famille, puis que tout tournait autour de l'homme, puisque l'homme il était appelé de Dieu, puis que les autres, mais là, Dieu parlait de répandre son esprit sur tout le monde. Les hommes et les femmes, les vieillards, les enfants, les serviteurs, les servantes, tout le monde pourrait recevoir la présence de l'Esprit de Dieu dans leur vie. Jésus en a parlé, lui, avec. Jésus, quand il était avec ses disciples, Jésus a confirmé cela. Il a dit que la présence du Saint-Esprit a été promise, que ce sera une promesse que Jésus a faite, puis ça avait pour but que l'Esprit de Dieu demeure éternellement dans ces gens-là qui le recevraient. C'est toute une promesse. Là, il n'expliquait pas toutes les conditions. Mais dans sa promesse, Jésus le dit dans Jean 14, le verset 16 et 17, Jésus dit à ses disciples, « Et moi, je prierai le Père, puis vous donnera un autre consolateur. » Parce que là, le consolateur qui était avec eux à ce moment-là, c'était Jésus lui-même. Mais Jésus annonçait à ses disciples, « Là, il faut que je m'en aille, puis c'est même mieux que je m'en aille. Parce que monsieur est parti, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. » Il était pour prier le Père, d'envoyer un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Dieu veut nous envoyer le Saint-Esprit pour qu'il demeure éternellement avec nous. Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est pas juste pour nous accompagner sur la terre, c'est pour nous accompagner aussi dans la vie éternelle. Quand il rentre en toi, que tu es né de nouveau, tu as reçu le Saint-Esprit, la promesse est pour l'éternité. Sauf qu'il y a toujours des conditions des promesses. Elles ne sont pas énumérées là, elles sont énumérées dans d'autres versets. Mais gardez à l'idée, quand même, la promesse, c'est pour l'éternité. Il parle à partir du verset 17, « L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous, vous le connaissez. » Car il demeure avec vous, il sera en vous. Voyez-vous, dans cette promesse-là que Jésus fait à ses disciples de leur envoyer le Saint-Esprit, il revient en cause à une idée que je vous ai dit les autres semaines antérieures, que le monde sont étrangers des promesses de Dieu. Ils comprennent pas ce qui se passe dans la vie des chrétiens. Ils peuvent pas comprendre parce qu'ils sont éloignés de l'esprit du monde. Puis avec l'esprit du monde, tu peux pas comprendre ce qui vient de l'esprit de Dieu. C'est comme un courant d'air. Tu sais d'où ce qui te vient, tu l'entends, mais tu sais pas d'où ce qui te vient ni où ce qui s'en va. Mais l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'une personne, c'est la même chose. Jésus dit, les gens peuvent pas le voir, c'est ce qu'il dit. Ils ne le voient point et ils ne le connaissent point. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu qui avons expérimenté cela, mais vous le connaissez, Jésus dit, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Ça veut dire que quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est une promesse éternelle, il va être en toi et il demeure avec toi. Quand tu es dans la cuisine chez vous, il est là. Quand tu es dans le salon, il est là. Quand tu es dans la chambre de bain, il est là. Quand tu es en train de conduire ton char, il demeure avec toi. Il n'y a pas de bout où ce qui n'est pas là. Tant que tu es en communion avec lui, il n'y a pas de bout qui n'est pas là. Il voit tout, il sait tout, il entend tout. Il veut qu'on réalise qu'il est là tout le temps. Ça va nous amener à avoir de la crainte. C'est pas léger. Le Dieu tout-puissant, créateur de l'univers, le Dieu trois fois saint, habite et marche au milieu de son peuple. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit qui était promis dans l'Ancien Testament, promis par Jésus, quand tu le reçois, tu reçois aussi Jésus et tu reçois aussi Dieu le Père. Les trois, tu les reçois automatiquement. Dans Jean 14, le verset 18 à 20, Jésus est encore en train d'enseigner ses disciples, de 18 à 20. Il dit, « Je vous laisserai pas orphelin. » Orphelin, ça veut dire quoi? Sans parents, tout seul dans vie. Jésus dit, « Je vous laisserai pas tout seul dans vie. Je viendrai à vous. » Jésus lui-même a dit à ses disciples qu'il était pour rentrer en eux. Wow! Eux autres, ils n'avaient pas entendu parler cela dans cette façon-là. Jésus est en train de dire qu'il était le Saint-Esprit. Puis le verset 19, « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. » Quand tu reçois le Saint-Esprit, Jésus dit qu'il est dans le Père, puis Jésus dit qu'il va être en nous. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois Jésus, puis tu reçois Dieu le Père. Wow! Y a-tu quelque chose de plus grandiose que ça, qu'un être humain aussi indigne que nous le sommes, puisse avoir en lui le Dieu créateur de toutes choses, le Dieu tout-puissant, le trois fois saint, celui qui maintient présentement l'univers au complet dans le creux de sa main? On peut s'imaginer sa grandeur? Tout est créé en lui. On peut s'imaginer la portée de sa grandeur et de sa puissance? Puis ce Dieu-là a décidé de venir faire sa demeure en nous. Oui, c'est vrai. Puis il faut le comprendre sérieusement parce que vous allez le voir que je vous dis, bon, vous mentionnez tantôt. Comment nous, les hommes pécheurs, comme nous sommes, morts-vivants, parce qu'avant de venir à Jésus, avant de le recevoir, morts-vivants, dominés par le diable, pouvons-nous recevoir Dieu en nous? C'est-tu pas extraordinaire? C'est là qu'on comprend comment c'est important que Jésus vienne payer la dette de nos péchés. On en a parlé les semaines antérieures, puis on faut revenir tout le temps là-dessus. On est là pour élever Jésus. On l'a mentionné au début dans les louanges. On est là pour élever Jésus afin que tout nom confesse que Jésus est Seigneur. Puis il faut rappeler toujours ce qu'il a fait. Il est mort sur la croix, il a versé son sang. C'est le sacrifice ultime qu'il a pu payer pour la dette de mes péchés et de vos péchés. Puis qu'à cause de son sacrifice, on a l'accès à pouvoir recevoir toutes les promesses de Dieu. Wow! Merci Seigneur de l'avoir accompli. Puis faut jamais qu'on oublie cela, que c'est pas par nos mérites qu'on est là. C'est parce que Jésus a tout payé. Puis là, qu'est-ce qu'il demande Jésus en retour pour qu'une personne puisse recevoir le Saint-Esprit? Il y a des conditions. Tu reçois pas le Saint-Esprit n'importe comment. Comment est-ce que les apôtres, dans les Actes des apôtres, dans Actes 2, 38, ont parlé aux gens qui savaient pas quoi faire, mais ils étaient touchés. Ils voulaient eux aussi recevoir le Saint-Esprit. Ils ont vu le Saint-Esprit agir. Jésus l'a dit, « Je vais revenir vers vous, puis vous, vous me verrez, car je vis, puis vous vivrez aussi. » Qu'est-ce qui s'est passé quand les disciples ont reçu le Saint-Esprit, puis là, qu'ils étaient témoins de voir ce que Dieu est en train de faire? Eux autres, ils ont été baptisés du Saint-Esprit. La puissance de Dieu était là, les gens parlaient en langue. Là, il devait avoir d'autres manifestations. S'il avait de l'air comme... en train de louer le Seigneur, il avait de l'air d'une gang de gossous, tellement que ça avait de l'air vraiment, ils sont remplis de quelque chose qui est peut-être du vin doux, les gens ont pensé ça. Il a dit non, on y est juste 9 heures le matin, on est loin de ça, On est tous remplis du Saint-Esprit. C'était la promesse de Joël de le recevoir, que Dieu répandrait son esprit sur toute chair. La promesse que je vous ai lue tantôt au début. Puis là, il dit, vous avez crucifié Jésus, puis Dieu l'a sauvé, il l'a délivré de la mort, etc. Il a expliqué ça à 3000 personnes, puis tout le monde t'a touché en entendant cela, parce que le Saint-Esprit, il était à l'œuvre pour les amener à repentance. Tout le monde pleurait. Puis là, il se demandait, qu'est-ce qu'on va faire pour l'avoir, nous aussi? Hommes, frères, que ferons-nous? Pierre lui a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Fait que tu peux recevoir le Saint-Esprit, ça t'est disponible, Jésus a tout accompli. Tout ce que tu as à faire, c'est déjà gros, repens-toi. Regrette le mal que tu es en train de faire. Aie le désir, le cœur de changer de vie. Faut que tu veuilles changer de vie. Faut plus que tu veuilles rester comme tu étais. Faut que tu te repentes. Puis là, tu t'engages à suivre Jésus. Là, tu vas être pardonné. Ton engagement, tes premiers pas vont être « fais-toi baptiser » pour démontrer que tu veux t'engager à suivre Jésus. Ta repentance, ça commence là. C'est ce que les gens ont fait. Puis les gens ils ont reçu le Saint-Esprit puis ont été sauvés. L'Esprit de Dieu est entré dans ces gens-là, puis c'est là que la nouvelle vie commence. Comme c'est écrit dans Jean, chapitre 3, le verset 6, quand Jésus est en train d'enseigner à Nicodème pour y expliquer, il faut que tu naisses de nouveau, il faut que tu reçoives le Saint-Esprit. Ce qui est né de la chair, c'est chair. Ce qui est né de l'Esprit, c'est esprit. Faut que le Saint-Esprit te donne de naître de nouveau. C'est une communion avec le Saint-Esprit qui commence, une nouvelle vie par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est Jésus, qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit, entre dans la personne suite à sa repentance puis son engagement à vouloir suivre Jésus. Dieu qui habite et marche avec nous. Wow! C'est vraiment extraordinaire. Il veut accompagner ses enfants dans leur pèlerinage terrestre. Il dit, je vous laisserai pas orphelin. Je vous laisserai pas tout seul. Le Saint-Esprit, Dieu le Père et moi, on va rentrer en vous. Puis là, on va être dans votre corps, en connexion avec votre esprit. Puis on va vous diriger. On va être avec vous dans votre marche. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec eux. Où? Mais dans le Saint-Esprit. Jésus, il a rentré dans le Saint-Esprit en nous, à notre conversion. Alléluia. Dans 2 Corinthiens 6, 16, c'est là que le nouveau statut est commencé à partir de la réception du Saint-Esprit. Nous sommes maintenant le temple de Dieu, la maison de Dieu, l'habitation de Dieu. Il nous dit dans 2 Corinthiens 6, 16, « Car nous sommes le temple du Dieu vivant. » Être son temple, c'est pas une bâtisse qui est sa maison, c'est notre corps qui est sa maison. Nous sommes... Tous les croyants, nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Amen. Gloire à Dieu. Dieu, il est là aujourd'hui. Il est ici. Il est au milieu de nous. Il est en nous. Faut comprendre ça, là. C'est bien plus, Dieu le sait comme s'il serait loin. Non, Dieu le sait bien plus que ça. Il est toujours à côté de nous, puis il est toujours en nous. Il dit qu'il veut habiter, marcher au milieu de nous, puis il va être notre Dieu. Un contact intime, une relation intime qui a commencé lors de notre conversion. On commence à plus que savoir qu'il est là. Nous le savons parce que nous l'expérimentons qu'il est là. Et il y a plusieurs facettes de manière qu'il communique, il parle, il nous instruit, il nous dirige, il nous montre la voie, il nous délivre, il nous guérit, il nous répond à nos prières, il montre des signes. Il y a toutes sortes de manières qu'il montre qu'il est toujours là. Comme David a dit dans le psaume 23, « Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Tu te sens toujours rassuré par la présence de Dieu, tu sais qu'il est là, tu as la conscience qu'il est là. Il s'est passé quelque chose, c'est beaucoup plus que juste une religion. On a reçu quelque chose qui fait qu'on est toujours conscient que Dieu est là. Avoir le Saint-Esprit en nous, parce qu'on est devenu son temple, c'est un nouveau statut qu'on a reçu, on l'avait pas, on est pas venu au monde avec le Saint-Esprit. Il y a juste certaines personnes choisies d'avance qui sont venues au monde avec le Saint-Esprit en partant. Jésus, bien entendu. Il y en a un autre qu'on sait, c'est Jean-Baptiste. Déjà, le Saint-Esprit travaillait sur lui depuis le sein de sa mère. Mais ça, c'est des exceptions. Les autres, on était tous des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Puis là, Dieu, il nous a appelés. Puis là, on l'a reçu à un moment donné. Puis là, notre vie a changé à partir de ce moment-là. Merci, Seigneur. Mais avoir le Saint-Esprit en nous, ça nous implique dans une grande responsabilité. C'est grave, là. C'est pas léger. C'est grave. Dieu, trois fois saint, est venu habiter dans des êtres pécheurs. Il a pardonné nos péchés, mais on en refait encore d'autres. Il y a quelque chose dans notre relation, faut quand même pas négliger. Faut pas l'oublier qui est là. Ça va nous porter à avoir plus de crainte, peut-être. Plus le désir de vouloir se sanctifier, plus le désir de vouloir apprendre à le connaître encore plus, pouvoir apprendre encore plus sa parole, de vouloir marcher d'une manière qui lui soit agréable, parce qu'on veut-tu être obligé de demander pardon à tous les deux minutes parce qu'on passe notre temps à refaire des péchés. À un moment donné, il faut apprendre à marcher. Il y a une responsabilité d'être le temple de Dieu. Le monde nous regarde aller. Ils nous voient, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit. Puis ils peuvent voir si vraiment l'Esprit de Dieu y est là, ou si on ne joue pas une comédie, puis on est des acteurs, puis en réalité, on ne l'est pas vraiment. Une des responsabilités, nous devons apprendre à rechercher, à glorifier Dieu avec ce que l'on a reçu. Quand tu es un enfant de Dieu, tu as un titre, tu as un statut. C'est comme si un policier de Montréal, mettons un policier de Beauharnois, un policier qui travaille pour la police, il représente l'autorité. Là, tu verras la police aller faire un vol. Là, tu dirais, wow, qu'est-ce que c'est ça? C'est le monde à l'envers. Ça se peut pas qu'un policier aille faire un vol. Mais s'il est rendu là, c'est parce qu'il a déchu de sa position. Il ne croit plus que son rôle qu'il a à faire dans cette vie, c'est pas d'aller voler, c'est d'arrêter les voleurs. Voyez-vous, quand tu as une position, tu as le titre, tu as été engagé par le groupement de la police d'un territoire, puis tu as des choses à faire à cause des policiers, mais tu patrouilles, puis tu regardes les infractions qui peuvent se faire, puis tu interviens. C'est ton rôle pour faire régner la justice. Pour être un agent de la paix. Mais quand t'es chrétien et t'es le temple de Dieu, c'est la même affaire. On a un rôle, notre rôle est important dans ce monde. Jésus n'a-t-il pas dit, vous êtes le sel de la terre? On est là pour conserver cette planète, pour qu'il y ait encore un petit peu de bons fruits qui sortent malgré comment est-ce que ça pue à grandeur de la planète. Dieu voit des petites lumières, c'est nous qu'on est la lumière du monde. On a éclairé, on a un témoignage, on a une responsabilité dans ce monde. Puis là, il dit dans 1 Corinthiens 6, 19 et 20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» qui est en vous. Là, y a-t-il quelqu'un qui a un doute d'être le temple? Ne le savez-vous pas? Vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Si vous ne le savez pas, je viens de vous le dire.
Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous?
Amen.
Que vous avez reçu de Dieu? Dieu a donné son esprit. Dieu lui-même est venu en nous. Que vous ne vous appartenez point à vous-même. Là, il y a une responsabilité. T'es rendu le temple de Dieu, t'as été racheté. Maintenant, tu t'appartiens plus. Car, verset 20, vous avez été racheté à un grand prix. Dieu a payé le prix pour nous acheter. On était des mains du diable, puis il y avait une dette à être réglée. Il fallait régler la dette de nos péchés pour sortir de ses griffes. Jésus a payé la dette que ça coûtait pour nous reprendre, pour nous racheter, pour qu'on puisse lui appartenir à lui. Donc, on lui appartient maintenant, puisqu'il nous a rachetés. À un grand prix. C'était pas n'importe quel prix. Il y avait rien de ce monde qui pouvait payer cette dette-là. Ça prenait le sang d'un juste. Puis il y avait le seul juste qui existait, c'est Dieu lui-même. C'est le sang du Créateur que ça a coûté pour qu'on puisse être sauvé. Puis on a été racheté à cause de ce prix-là qui a été payé. Puis là, il dit, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, on appartient à Dieu. C'est écrit au-dessus de nous autres, propriété privée de Dieu. Le sceau de Dieu sur notre front. Un sceau, c'est un étampe. On a tout été étampé qu'un sceau dans le front. Vous le voyez pas, mais Dieu le voit. Puis le diable le voit. C'est le sceau de Dieu comme quoi vous appartenez à Dieu. Gloire à Dieu. Faut faire attention de la manière qu'on marche. Faut glorifier Dieu avec notre corps et notre esprit qui appartient à Dieu. Le temple de Dieu, c'est moi. Le Saint-Esprit de Dieu est entré, il a payé cher pour que mon corps devienne son temple. Maintenant, je suis sa propriété, puis il s'attend un minimum de notre part. On regardera pas toutes ce qu'il nous demande dans la parole. Il y en a trop de versets qui nous imposent une marche à suivre. Mais on fait juste se rappeler quelques versets pour se renier, pour qu'on ait la crainte de Dieu puis qu'on fasse attention. Voyez-vous? Un autre point, nous devons apprendre à faire attention à notre conduite afin de pas détruire. Afin de ne pas altérer, mais de ne pas détruire notre relation avec Dieu. Dieu, il est trois fois saint. Moi, j'ai une conduite d'un être qui son corps est voué tout le temps à faire des péchés. Faut que je fasse attention. Faut pas que je me livre à tout ce que mon corps, ça y tente, là. Parce que là, lui, il a bien des désirs contraires à celle de Dieu. Puis quand que je fais des péchés, je l'attriste. Puis il peut même débarquer de ma vie. Il y a des versets, ceux qui ne le croient pas, puis vous voulez avoir plus de réponses là-dessus, viendrez me voir. Il y a des versets pour cela. Là, Dieu veut nous enseigner à quand même à faire attention à sa relation. Qui c'est qui s'est marié, puis il fait pas attention à sa relation avec son épouse? Oui, mais on est supposé... Beaucoup de personnes font pas attention, puis comment ça finit quand ils font pas attention? Ça finit par un divorce. Faut que tu fasses attention de relation. Tu dis pas n'importe quoi à ta femme, puis l'envoyer promener, puis la mépriser, puis donner des coups. Tu veux l'aimer, tu veux en prendre soin, tu veux essayer de l'écouter une fois de temps en temps. Ben, vous comprenez l'idée qu'une relation, ça se bâtit avec de l'amour, de l'écoute, puis de faire attention à ce que tu dis, ce que tu fais. Il y a un minimum de responsabilité pour le mariage, mais dans notre relation avec Dieu, c'est la même affaire. Dans 1 Corinthiens 3:16, 16 et 17. Il nous répète encore l'idée, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? » Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Nous sommes le temple où ce que Dieu habite. Dieu est en nous. Si quelqu'un détruit le temple, Dieu va le détruire. Savez-vous dans quel contexte que c'est écrit? Souvent, on pense toujours, comme réflexe qu'on entend souvent, que si quelqu'un nous fait du mal, mais il a attaqué le temple, puis que là, Dieu va y remettre. Mais c'est pas dans ce contexte-là que c'est écrit. Ce verset-là est écrit juste quelques versets avant. Ça nous dit que si quelqu'un bâtit sur le fondement, il va être sauvé, mais s'il bâtit avec l'or du chaume, puis du bois, puis du tlaquet sur les œuvres de ce monde, mais il a le fondement, mais il va être sauvé, mais comme au travers du feu. Puis là, il nous demande, dans ce verset-là, parce qu'en réalité, le but de cela, c'est de pas te déconnecter de ta relation avec Dieu parce que tu rechercherais le péché. Il est en train de nous parler que nous sommes responsables de notre communion avec Dieu et nous devons marcher de façon à l'entretenir pour que notre temple se maintienne temple. Parce que là, il est en train de dire qu'il y en a qui ont la foi, mais pour avoir la foi, commencer à bâtir juste les choses du monde en ayant la foi. Il va être sauvé pareil, mais qu'il y en a d'autres, eux, ils détruiraient le temple parce que leur vie ne fera pas attention. Puis ils marcheraient dans le péché, puis ils se détruiraient eux-mêmes le temple. Voyez-vous? C'est dans ce contexte-là qu'est écrit ce verset-là. Ça regarde premièrement le propriétaire de ce temple-là, qui est Dieu, avec le propriétaire de celui qui l'a, c'est nous. Faire attention de pas détruire notre communion avec Dieu par le péché. Parce que s'il y a des gens qui s'en foutent, puis ils débarquent de leur foi en Jésus, mais ils viennent de détruire le temple, puis ça va être comme les autres versets que c'est en train de dire. Il est retourné à ce qu'il avait vomi, puis la truie lavée est allée se revautrer dans le bourbier. Puis il était mieux de jamais le connaître que de l'abandonner après l'avoir connu. Il y a toutes sortes de versets qui nous parlent de gens qui vont abandonner, puis qui vont se livrer à abandonner la foi, puis qu'ils vont détruire le temple de Dieu, la communion avec Dieu qu'ils ont reçue. Une autre responsabilité, qu'est-ce qui est là, c'est le côté bénissant de notre responsabilité. Nous devons apprendre à écouter le Saint-Esprit. Si moi, j'ai le statut, je suis son temple, sûrement que le Saint-Esprit qui est en moi veut me dire quelque chose. Le Saint-Esprit parle régulièrement à travers les messages, à travers sa parole, à travers les prophètes, à travers les frères et sœurs. Le Saint-Esprit travaille, puis il veut nous parler pour nous emmener plus proches, plus en communion, plus saints, plus dans le service. Il veut nous équiper, il fait une œuvre en nous. Mais il veut nous apprendre à l'écouter, il veut nous parler, puis il veut qu'on retransmette ses messages. C'est notre rôle. Jésus n'a pas dit à ses disciples, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Jésus a dit ça à ses disciples, « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Si on est appelé à enseigner ce que Jésus nous a prescrit, Où est-ce qu'il nous le prescrit dans sa parole? Comment je fais pour le savoir? Je vais aller lire sa parole. Là, sa parole pénètre. Dieu m'a parlé, Jésus m'a parlé par sa parole. Il me dit ce qu'il nous a prescrit, puis après ça, il nous dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, le Saint-Esprit, en étant le temple de Dieu, il veut qu'on soit à l'écoute de ses révélations, de ses enseignements, pour être capable d'être un canal dans ce monde. On n'est pas un temple pour rester un temple caché dans une forêt où personne ne sait où ce qui est et qu'ils ne nous verront jamais. Non, on est un temple où ce que Dieu habite pour être visible aux yeux du monde, pour que le monde puisse venir puiser ce qu'il sort de Dieu qui est en nous. 1 Corinthiens 2, 12 à 13. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, si on l'avait déjà. Mais quand tu te convertis, c'est l'esprit de Dieu que tu reçois. Mais l'esprit qui vient de Dieu, afin, voyez-vous, il y a un afin. Ça veut dire qu'il y a un but pourquoi que l'esprit de Dieu est entré en moi. Il y a un afin. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ça veut dire, le Saint-Esprit est entré en moi afin que je connaisse les choses que Dieu m'a données. Parce que quand tu acceptes Jésus, tu comprends pas en profondeur tout ce que Dieu t'a donné. Mais afin que tu connaisses que ce que Dieu t'a donné, il t'a donné le Saint-Esprit. Il veut t'enseigner toutes choses. Il veut te les révéler. Fait que c'est important d'être attentif à tout ce qu'il nous enseigne. T'as reçu le Saint-Esprit en toi afin que tu puisses connaître ce que Dieu a pour toi. Dans toutes ses promesses, dans toutes ses applications, aussi dans sa manière de vivre, la manière d'être. Dieu veut, il a fait de toi une nouvelle créature, puis il a plein de choses à nous révéler. Puis il fallait qu'il vienne en nous pour les faire et nous enseigner. Alors regardez bien. Qu'est-ce qu'il nous dit? Afin qu'on connaisse les choses que Dieu nous a données. L'Esprit est venu de Dieu afin que je les connaisse. Et nous en parlons avec des discours qu'enseigne, non avec la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Il dit, on a reçu le Saint-Esprit pour connaître. Puis là, il dit, nous en parlons. Donc, tout ce qu'on apprend sur Dieu, le but, c'est qu'on soit des gens qui abreuvent les autres. Qu'on puisse laisser couler ce que Dieu nous a déversé en nous. Notre connaissance, nos instructions, notre expérience de notre communion avec Dieu. Parce qu'on veut tous grandir. On veut tous se fortifier dans le Seigneur. Puis on va en voir d'autres études à ce niveau-là. Dieu veut se servir de son temple pour rejoindre les autres temples. Il y a comme une connexion qui se fait entre chacun de nous, parce que nous sommes tous comme des pierres ajoutées une à l'autre pour faire un édifice spirituel. Prenons au sérieux notre relation avec le Créateur. Prenons ça au sérieux, c'est pas des farces. C'est précieux. Puis Dieu, dans Jacques 4:5, Dieu nous dit, c'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Dieu aime son Saint-Esprit. Il était avec lui de toute éternité. C'est lui aussi, c'est lui-même, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit qui sont là de toute éternité, puis qui sont trois fois saints. Puis c'est avec jalousie qu'il nous a donné son Esprit pour le mettre en nous. Faut vraiment marcher dans la crainte du Seigneur, puis pas dans être haut sur la crainte, puis avoir peur de se faire frapper, mais d'une crainte de respect, puis de vouloir faire ce que Dieu demande, puis ce que Dieu aime. Le faire avec empressement, le faire avec dévouement, le faire avec joie, mais en faisant attention de pas faire des affaires qui l'offensent, puis si on en fait, bon, il demande pardon. Voyez-vous? Il veut que nous soyons rempli continuellement de la présence de son Saint-Esprit. On ne l'est pas automatiquement toujours rempli. Mais dans Éphésiens 5, 18, ça nous le dit, « Soyez remplis du Saint-Esprit. » Ce Saint-Esprit-là, il est là, mais il n'a pas pris tous les domaines dans notre vie. Des fois, on y laisse un petit coin, là, puis on n'y pense pas souvent. Puis on ne le laisse pas agir, puis on agit pleinement dans tout ce que nous, on veut. Mais laissons-lui de la place. Il veut prendre toutes nos pensées. Il veut nous parler. Il veut prendre notre bouche. Il veut parler à travers de nous. Il veut prendre notre corps. Il veut aider les autres. Il veut nous utiliser dans la prière. Il veut prier pour les autres. Il veut qu'on communique. Il veut qu'on laisse passer. Mais il faut en être rempli. C'est pour ça qu'il nous dit, pour être rempli, entretenez-vous, maintenez-vous dans les louanges. Il dit, soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chante. On va le voir aussi en plus en profondeur un peu plus tard. Pour être rempli. Toujours rempli. Ma tank à gaz de mon char n'est pas toujours rempli. Faut que je retourne tout le temps à la station de gaz pour faire le plein. Mais la vie spirituelle, c'est la même chose. Tous les jours, faut aller puiser à la tank à gaz du ciel pour être rempli.
Amen.
Suite à notre conversion, nous avons un nouveau statut, une nouvelle position en Jésus. Nous sommes devenus le temple de Dieu. Puis ça nous dit dans un autre passage, nous sommes devenus une construction de Dieu. Parce que ce temple-là, il est en construction. En rentrant, il commence à la travailler, à la construire, pour que ce temple-là devienne de plus en plus beau. Dans 1 Corinthiens 3, 9, ça dit, vous êtes le champ de Dieu. Le champ, un champ, où ce qui pousse des choses. Vous êtes l'édifice de Dieu. Puis le mot édifice, dans le grec, là, le mot qu'il y a là, c'est édifice, ça voulait dire édifier ou construction. Vous êtes une construction de Dieu. C'est là qu'on voit que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature, une nouvelle création, une nouvelle construction de Dieu, une nouvelle habitation en construction, parce que Dieu, il fait de toi son temple, puis t'es en construction, en développement. T'es pas rendu 100% beaucoup, bien beau, spirituellement parlant, en commençant, mais il commence un œuvre, puis puis même, je dirais qu'au début aussi, t'es pas toujours utile, utilisé, tu peux être là, puis pas t'impliquer, tu comprends pas encore. Mais la construction se développe, puis là, il t'équipe, puis il te modèle, puis il te donne des dons, puis des responsabilités, puis tu te développes, puis tu t'impliques, fait que tu deviens de plus en plus utile pour son service, voyez-vous. On est en développement toute notre vie. Ceux qui ont reçu des talents, il y en a un qui n'avait 5, il y en a un qui n'avait 2, un qui n'avait 1. Puis ça dit, ils avaient tout reçu selon leur capacité. Puis à la fin de leur vie, ils avaient tous le double, sauf le dernier que lui, il avait enterré, ça n'a rien changé. Mais tu commences avec une capacité, puis Dieu augmente tes capacités, il donne de nouveaux dons, puis il t'utilise de plus en plus. Puis Jésus nous appelle à être fidèles dans les petites choses, si on en veut les plus grandes. Amen.
Amen.
En étant une construction de Dieu pour être son temple, pour être sa maison. Éphésiens 2, 21-22, ça nous dit, en Jésus, en lui, en Jésus, tout l'édifice, parce qu'on est un édifice en construction, chacun de nous, on est une pierre de cette construction-là, de l'ensemble de l'Église qui est son temple. C'est pas juste une personne toute seule dans son coin qui est le temple, puis qu'il y a tout en lui, non, c'est l'ensemble de chacun de nous. Il dit, en Jésus, tout l'édifice est bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes édifiés, construits par Dieu, pour être une habitation de Dieu en esprit. Puis là, Dieu nous appelle à nous approcher de lui. Il y en a qui sont venus à Jésus, mais ils sont plus aussi proches qu'ils l'ont déjà été, parce qu'ils ont négligé des éléments à maintenir cette relation-là, puis ils l'ont peut-être altéré, cette relation-là, ou même détruite. Tu peux devenir être chrétien puis être déclaré mort devant Dieu, mais Dieu nous appelle pour qu'on se reconnecte. L'enfant prodigue, quand il est revenu vers son père, il a dit, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Fait qu'il y a toujours une possibilité, tant que tu n'as pas été dans la voie de non-retour, il y a toujours une possibilité de pouvoir venir au Seigneur, puis de rétablir cette communion-là avec le Seigneur, puis de pouvoir vivre pleinement ce que le Saint-Esprit veut faire en toi, puis de te renouveler complètement, de continuer. Dieu va refaire ce qui a été démoli, il va te reconstruire pour que tu fasses encore partie de l'habitation de Dieu. Dieu veut encore briller dans les chandelles qui se sont éteintes. Il nous appelle à nous approcher de lui par la foi. Faut croire qu'il le dit. À cause qu'il le dit, tu as le droit d'y croire. Même si tu ne l'as jamais accepté, tu as le droit d'y croire. Tu peux faire partie du temple de Dieu. Tu peux recevoir le pardon de tes péchés, tu peux recevoir le Saint-Esprit et tu peux être greffé à son corps qui est l'Église. Afin que tu deviennes toi aussi, celui qui a été rejeté ou que celui qui l'a jamais reçu, une pierre précieuse à son temple. Parce que son temple est formé de pierres. Chacun de nous, on est comme une pierre. Puis quand on est en contact avec le Seigneur, on est tous connectés à cette même pierre-là. On est son temple. On a chacun notre place dans son temple. Dans 1 Pierre 2, 4, 5, ça nous dit, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Nous sommes des pierres choisies, mais des pierres précieuses. On est précieux aux yeux du Seigneur. Il n'y a pas un seul de ces temples que Dieu veut le voir prendre le chemin de la perdition. Dieu veut tout voir ses brebis. Il dit, il laisse les 99 pour aller chercher celle qui s'est perdue. Fait qu'il veut tout voir ses brebis en communion avec lui, ses pierres vivantes, toutes connectées pour former ce temple-là. Puis il dit, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Dieu nous appelle, puis je sais que Dieu appelle des gens à travers ce message-là. Dieu vous appelle à vous reconnecter au Seigneur. Dieu vous appelle à, si vous l'avez jamais fait, vous n'avez jamais accepté Jésus comme votre sauveur, il vous appelle à y donner votre vie, à vous repentir, puis à l'accepter comme votre sauveur, à le confesser, à laisser rentrer le Saint-Esprit en vous, puis vous allez être devenu son temple. Je vais faire une prière pour ceux qui se sentent loin du Seigneur. Puis c'est la même prière que tu te sentes loin du Seigneur ou si tu veux accepter le Seigneur. C'est toujours par la repentance. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus est mort sur la croix. Il a versé son sang pour pardonner mes péchés. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Mais si vous avez fait cette prière, bien, vous appartenez au Seigneur. Vous êtes sauvés. Allez dans une église évangélique, dans notre église. Tout le monde sont les bienvenus. Grandissez dans le Seigneur. Marchez dans la crainte du Seigneur. Soyez utilisés par le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment.